Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et aujourd'hui, pas de Maxime Dupuis, mais Arthur Merle pour nous accompagner. C'est un peu comme si Liverpool passait de Jürgen Klopp à Pascal Dupraz. Comment ça va, Arthur ?
Plus les émissions avancent, plus il y a des comparaisons flatteuses.
Ouais, c'est vrai.
Pascal Dupraz, alors c'est peut-être pour mon...
Attends, mais Pascal Dupraz, il a fait des grandes choses.
Pour ma poigne.
Mais il a fait des grandes choses, Pascal Dupraz.
Bien sûr.
Non, mais c'est vrai.
En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et de te retrouver, Martin.
Bah, moi, ça me fait plaisir. C'est pas trop dur de rentrer dans les habits de Maxime Dupuis, de voilà, d'avoir ces lourds héritages sur les épaules.
Non, ce qui va être dur, c'est d'avoir de la répartie avec toi à mes côtés, Martin. C'est
non,
ça le plus
mais
compliqué.
Non, mais arrête. Mais
surtout
arrête,
ça. Arthur, c'est l'enjeu principal de cette émission pour quiconque est à côté de toi.
Arthur, c'est le petit diamant, la petite pépite de Eurosport.fr. C'est un peu le Ryan Cherki d'ici les Mouineaux.
29 ans, mine de rien, bientôt 30.
Mais dans le journalisme, c'est un sport à maturité tardive. Ouais. Voilà. Bon, et c'est vrai qu'il serait temps que tu commences à percer, Arthur, mais. Ouais, rien de Maxime. Maxime, il a percé à 57 ans. Hein. Avant, c'était rien, Maxime. Hein. La Stream Team, il est arrivé, 57 piges, il nous racontait ses vieilles histoires, mais au final, ça a marché. On va parler de trois sujets. Évidemment, on va démarrer avec le choc. Tout le monde est un peu abasourdi, puisque Jürgen Klopp a annoncé, là, il y a quelques minutes, qu'il quittait Liverpool en fin de saison. Donc, on va se demander pourquoi c'est un choc, et puis on va se questionner sur... sur tout ce qu'a fait Jürgen Klopp depuis qu'il est arrivé à Liverpool, c'est-à-dire il y a 127 ans environ.
Alors un autre choc, toute proportion gardée, c'est ce qui a failli se passer entre Hervé Renard et la Fédération Ivoirienne, et la Fédération Française de Football d'ailleurs. Hervé Renard qui aurait bien pu rejoindre la Côte d'Ivoire pour terminer la CAN avec les éléphants, ça ne s'est pas fait. Mais on va quand même se demander ce qui s'est passé dans la tête de tout ce petit monde, Martin.
Ouais, exactement, c'est incompréhensible. Et on terminera avec Bradley Barcola et le Paris Saint-Germain. Pourquoi Bradley Barcola ? On a décidé de faire un petit focus sur lui parce que il est chaud en ce moment, l'ancien Lyonnais. On va se demander tout simplement si c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain et sur ce que ça dit aussi des ambitions et du PSG cette saison.
On est bon sur tout, et on peut terminer, on peut conclure.
Non, on vous rappelle simplement que le podcast est à retrouver sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes. Pour voir Arthur, pour ceux qui ne sont pas habitués à Arthur et qui se disent « il y a une jolie voix, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette voix suave ?» Il y a aussi un beau garçon derrière. Il y a un beau garçon, je peux vous le dire. Il fait tomber tout le monde. Voilà, il fait craquer tout le monde, Arthur. Donc, c'est autre chose que Maxime. Alors là, pour le coup, on passe d'une deux chevaux à une Ferrari. Hein, si je devais filer la métaphore. Donc, pour voir la tronche d'Arthur, ses contours surtout, parce qu'on a des contours là.
Ça a une semaine. Hein,
on a des contours. Hein, on a des jolis contours. Venez sur Eurosport.fr parce que vous aurez les vidéos des meilleurs moments de l'émission pour voir les plus beaux contours d'Arthur. Merde.
Je vous donne pas l'adresse du coiffeur parce qu'il me coupe chaque fois qu'il me fait la barbe, donc voilà. Mais vous pourrez quand même voir le petit dégradé.
Si t'as pas de barbe, je vous le recommande pas. Voilà. Si t'as pas de barbe comme moi, tu peux aller chez ton coiffeur.
Ouais, il fait le travail correctement.
C'est propre et c'est précis. C'est ce que j'aime. Est-ce que tu seras aussi propre et précis, Arthur ?
On va essayer.
Vas-y.
Je vais essayer de faire un lancement propre, en tout cas, pour ce premier sujet qu'on va évoquer. On l'a dit, Jürgen Klopp, c'est la grosse bombe de la matinée. L'entraîneur allemand qui a annoncé à Liverpool qu'il s'arrêterait en fin de saison après 9 ans, donc passé sur le banc des Reds. Pourquoi ça fait l'effet d'une bombe ? Parce qu'il a tout simplement rebâti ce club mythique qu'était Liverpool. Il l'a remis au sommet du football européen, Martin.
Oui, et puis c'est un choc parce que déjà, pourquoi l'an dernier, je ne sais pas si on sentait une forme d'usure, mais en tout cas, les résultats n'étaient pas là. Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions cette année. Ils étaient sortis du top 4. Alors qu'ils semblaient franchement au-dessus avec Manchester City ces dernières années, on s'est dit, bon, pourquoi pas. Là, il a remis tout le monde droit et ce n'est pas un mince exploit. Et pourtant, il nous annonce au mois de janvier qu'il va arrêter. Alors, comment il a justifié ça ? Il a dit, je suis à court d'énergie. Voilà, je suis au cours d'énergie. Ça fait 9 ans qu'il est à Liverpool. Et je pense qu'on ne se rend pas bien compte la lessiveuse qu'est ce métier d'entraîneur. Et encore plus qu'on est en première ligue à Liverpool, où on a un degré d'exigence qui est énorme. Donc forcément, ça use. Mais c'est vrai que le timing, il interroge. Liverpool a encore des choses à jouer. Alors, il y a en Coupe d'Europe, mais il y a surtout en première ligue. Et moi, je m'interroge tout le temps sur ces entraîneurs qui sont quand même les garants et l'incarnation des projets et des ambitions et qui disent stop 5 mois avant la fin des échéances. Je trouve que, voilà, moi, c'est toujours quelque chose qui me questionne. Alors, peut-être c'est parce qu'il y a une vraie histoire qu'aujourd'hui, Klopp, c'est Liverpool, que Liverpool, c'est Klopp et que tu ne peux pas couper ça du jour au lendemain et dire « Ok, je m'en vais demain ». Mais là, quand même, je trouve que c'est un risque aussi qu'il prend et que Liverpool prend. Après, ouais, les Reds peuvent bien lui passer ça, je pense.
Ouais, je pense aussi. Après, est-ce qu'il a voulu évacuer la question tout de suite et se concentrer sur la fin de saison derrière? Parce que, mine de rien, ça fait quand même quelques années que la question de l'avenir de Klopp, elle se pose toujours un petit peu à l'approche de la fin de saison, parce que forcément, au bout de 9 ans. Donc, est-ce qu'on a voulu évacuer ça du côté de Klopp? Éventuellement. En tout cas, il lui devait bien ça, Liverpool, de lui réserver, enfin, qu'il communique son choix quand il le voulait, parce qu'on a commencé à le dire, Liverpool avec Klopp, c'est un premier titre en première ligue depuis 30 ans, c'était en 2020. Une première ligue des champions depuis 2005, la dernière qu'ils ont conquise en 2019, du coup, la dernière. C'est, comme on l'a dit, un Liverpool de nouveau au sommet du football anglais, parce qu'au-delà de ce titre, c'est une régularité dans le haut du classement qui est assez dingue. Et puis, ce qui est le plus fou, c'est l'identité qu'il a donnée ou redonnée à Liverpool, c'est-à-dire que, tu le disais très bien avant, Liverpool, c'est Klopp, mais jusque dans les derniers détails du club, c'est-à-dire que dans le style de jeu, dans la relation au public, dans l'identité du club, vraiment, Liverpool, c'est Klopp. Et pour moi, il y a un seul homme à qui on peut comparer ça, c'est Guardiola avec Manchester City, éventuellement Diego Simeone avec l'Atlético. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les durées de mandat. Mais il y a quand même pas mal d'analogies à faire entre Klopp et Guardiola, je trouve. On imagine que cette fin de contrat va se suivre d'une année sabbatique éventuellement pour Jürgen Klopp
qu'il recharge, là.
Se ressourcer. Donc voilà, pas mal d'analogies, mais il y a quand même, je pense, Martin, une vraie peur du vide du côté de Liverpool sur ce qui va se passer après, parce qu'il fait partie de ces entraîneurs après lesquels tu te dis qu'est-ce qu'on fait maintenant, tellement il a tout construit.
Et il avait dit lors de sa conférence de presse à son arrivée, il avait dit ce que les gens pensent de vous quand vous arrivez, c'est pas important, ce qu'il est, c'est ce qu'ils pensent de vous quand vous partez. Là, ce qu'on pense de Jürgen Klopp, tu l'as bien dit, mais moi, plus que le palmarès, en fait, c'est le sourire, c'est le bonheur, c'est l'énergie. Voilà. Pour moi, Liverpool, c'est ça, c'est ces trois trucs-là. C'est Klopp. C'est la fougue. C'est, alors, évidemment, le contre-pressing, tous ces trucs-là qu'il a mis en place et qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière ça, c'est Klopp. La fusion avec Anfield, c'est Klopp. Ce qui se passe autour du terrain, son théâtre pendant 90 minutes, ce que ses joueurs font aussi, effectivement, il y a tout qui est imbriqué. Donc, forcément, quand tu t'enlèves la pièce principale du puzzle, bah oui, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer derrière. Effectivement, c'est une espèce de trou béant comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'au 21e siècle, pour moi, si je devais classer les plus grands entraîneurs du 21e siècle, bah, ils seraient dans le top 5. Vous mettez Guardiola, vous mettez Ancelotti quand même, vous mettez Ferguson. Et pour moi, Klopp, il se situe là, quoi. Donc quand tu enlèves cette pièce-là, et ben t'as tout à repenser. Alors on pense à Xabi Alonso qui est en train de faire des merveilles avec Leverkusen et qui a écrit aussi des belles histoires du côté de Liverpool et qui pourrait lui aussi incarner quelque chose de nouveau, parce que je pense que quand tu prends la succession de Klopp, t'as intérêt à avoir derrière une personnalité et montrer quelque chose sur le terrain qui soit indiscutable.
Et puis des idées neuves, tu peux pas venir et vouloir recycler ce qui a déjà été
parce
fait.
Parce que tu feras forcément moins.
Exactement. Et puis tu parlais de Klopp comme d'une référence, c'est évident. Et à quoi on juge des très bons entraîneurs, c'est aussi à comment ils font progresser leurs joueurs. Et alors là, c'est quand même un aspect très très intéressant du CV de Klopp, qui a pris Salah, Mané, Firmino et qui a fait d'eux des références au poste d'attaquant. Quand vous comparez l'effectif qu'il a eu à sa disposition à son arrivée et celui d'aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose. Et pourtant, il n'y a jamais eu de recrutement de superstar sous Jürgen Klopp à Liverpool. Donc c'est ça qui est très très intéressant. C'est cette capacité à bâtir sur la durée et à faire énormément progresser des joueurs qui, on le rappelle, hein, Salah, où il en était avant de rejoindre Liverpool, ça allait un peu mieux, mais Mané, voilà, Firmino, c'était des joueurs à faire progresser. Ce qu'il a fait d'eux, c'est exceptionnel, et Liverpool a bâti ses succès, notamment sur ce trio offensif. Peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est la suite pour Jürgen Klopp, Martin.
Oui, alors... La suite pour Jürgen Klopp, c'est compliqué parce que là, il part parce qu'il a plus d'énergie. Donc, tu le disais, une année sabbatique. Mais bon, il y a quand même deux défis, je pense, quand on est allemand, qu'on a envie de cocher. Et surtout quand on est le plus grand entraîneur allemand depuis, en tout cas du moment, ouais. On va dire. C'est le Bayern Munich qui, pour l'instant, court derrière Leverkusen. Alors, s'il gagne la Ligue des Champions, il y aura la Bundesliga avec ouais. Le Bayern. Il ne faut jamais les enterrer. Mais en tout cas... Tuchel, pour l'instant, il n'est pas indiscutable et on ne se dit pas que ça peut durer sans problème. Donc, il y a le Bayern Munich. Et il y a évidemment l'équipe d'Allemagne. On imagine un énorme crash à domicile parce qu'on est potentiellement sur la pire équipe d'Allemagne, ou en tout cas, une des pires équipes d'Allemagne de l'histoire. Hein. Et en tout cas, ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Et Klopp, en tout cas, épouse le portrait parfait de celui qui peut reprendre, et refaire de l'Allemagne une nation majeure. Mais... Donc, il y a quand même deux gros défis qui se présentent à lui, potentiellement, même ouais. S'il reste 6 mois, et l'Allemagne peut être championne d'Europe et le Bayern aussi.
Sur le papier, moi, il y a un projet qui m'exciterait, vu de l'extérieur, c'est le Barça. Parce que ouais. Là, Xavi, clairement, c'est un peu compliqué. On sent que le Barça se cherche un petit peu. Voir cette opposition de style entre un Barça plutôt qui découle des idées notamment de Guardiola dans un passé récent et les idées de Jürgen Klopp, moi, c'est un truc qui pourrait vraiment me plaire. J'aimerais bien voir ça.
Il y a un truc avec Klopp, c'est que pour dire à quel point il a incarné, j'allais dire Liverpool, mais aussi la Première Ligue, c'est qu'on était quand même sur une décennie globalement de duel Messi-Ronaldo en Liga. Ça s'est déplacé en Première Ligue sur le duel, alors pas avec autant de force parce que ça reste des entraîneurs et c'est pas eux ouais. qui marquent des buts, mais un des grands duels en tout cas des 5-6 dernières années, ça reste quand même le club Guardiola. Alors ça a beaucoup tourné en faveur de Guardiola, voire quasiment tout le temps, mais bon, il a quand même réussi à choper un titre. Mais quand même, c'est aussi les stars en Première Ligue, finalement, elles étaient sur le banc. Alors jusqu'à ce qu'Haaland arrive, où là, tu as un degré de superstar supérieur, mais quand même, c'est la Première Ligue qui tirait sa force de ces coachs-là, et principalement quand même de Guardiola et d'Jürgen Klopp. C'est dire à quel point ce départ n'aura pas sera pas le même retentissement que le départ de Ronaldo du Real Madrid, mais quand même, c'est quand même de cet ordre-là, quoi.
Ah oui, et puis ça va s'accompagner possiblement d'un départ de Salah. Ça aussi, c'est une page que la première, enfin, au-delà de Liverpool,
contrat, je crois. Donc,
il y a quand même de plus en plus de rumeurs sur un départ en Arabie Saoudite. Salah, Klopp qui vont quitter Liverpool, la Première Ligue. Guardiola, je ne sais pas combien de temps il va rester à Manchester City, mais la Première Ligue doit commencer quand même à se dire « Tiens, j'aimerais bien qu'on trouve les successeurs. »
Et dernière chose, je pense que... Alors, l'espoir, il était infime, il était minime, il était très léger. Mais je pense que ça signe la fin de la rumeur Kylian Mbappé du côté de Liverpool. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce qui plaisait d'abord et avant tout à Kylian Mbappé, c'était la figure de Jürgen Klopp. Mbappé, c'est un grand fan de Jürgen Klopp. Et c'était la raison principale pour laquelle on pouvait imaginer éventuellement un avenir du capitaine de l'équipe de France en Première Ligue. Il n'y a plus Klopp, il n'y aura pas de Mbappé.
Ouais, ça paraît assez clair à ce niveau-là. Martin, on va continuer de parler d'entraîneur.
Oui.
Et on va parler d'un entraîneur français à la renommée un peu moins international, mais quand même.
Ah, mais quand même.
C'est tout le sujet. On va parler d'Hervé Renard, donc qui... En quelques heures, a fait énormément parler de lui dans la journée de jeudi parce que la fédération ivoirienne, qui on le rappelle, a écarté Jean-Louis Gasset en plein milieu de sa canne, c'est-à-dire avant de disputer les huitièmes de finale.
Ça déjà c'est dingue.
Après une phase de poule, c'est certes laborieuse, mais quand même. Eh bien, la fédération ivoirienne s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas rechercher Hervé Renard, qui nous a fait gagner la CAN en 2015. Et donc, elle a contacté la fédération française, qui a un temps... envisager cette idée. Hervé Renard, lui, était chaud.
Ouais, c'est ça le pire.
Martin, je sais que tu as un avis très tranché.
Ouais.
Je te laisse te lancer.
Moi, ça me pose trois problèmes. Le premier et le principal, c'est que la sélection nationale, c'est sacré. On ne touche pas à la sélection nationale. Or, Hervé Renard est sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc, on n'y touche pas. C'est comme ça. Le fait qu'ils disent à nos amis de Canal+, j'aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement, qu'est-ce que ça dit ? Et bah, ça laisse quand même sous-entendre qu'il y a un peu de légèreté au sommet de l'équipe de France féminine. Moi, je m'en fous que ce soit pour 10 jours, pour 6 mois, pour 4 ans, que le prochain match de l'équipe de France ce soit demain, après-demain ou dans 6 mois. Peu importe, c'est une fonction. Être sélectionneur, c'est une fonction. Être sélectionneur de l'équipe de France, c'est sacré, comme j'ai dit. Donc après, peu importe le timing et tout ça, non, il n'y a pas de prêt dans une autre sélection. Et puis, ça dit quoi ? Ça dit quelque chose aussi de l'idée qu'on se fait du football féminin. À quel moment on peut imaginer qu'un sélectionneur va comme ça de sélection en sélection ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une seule seconde ça avec un entraîneur d'une équipe, d'une sélection masculine ? Didier Deschamps, l'Algérie, il pourrait prendre Didier Deschamps là, tiens, pour démarrer la phase de qualif, pour se remettre un petit coup d'accélérateur. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que dans le même temps, la même journée, RMC annonçait qu'il n'irait pas au-delà de son contrat avec la fédération à Bernard, donc que ça s'arrêterait après les JO, quel que soit le résultat. Donc, ça laisse supposer aussi, mais que ce soit vrai ou pas, finalement, peu importe, ça laisse en tout cas envisager qu'il y a quelque chose là-dedans d'un calcul personnel, de se dire, je ne vais pas laisser tomber le continent qui m'a fait, l'Afrique, une des nations qui m'a fait, et on sait que l'Algérie cherche un sélectionneur, ça aurait pu faire un petit peu grimper la cote d'Hervé Renard qui est déjà très haute en Afrique. Et le troisième problème, c'est que si ça se passe mal au JO pour l'équipe de France féminine,
ça va forcément revenir.
Ça reviendra comme un boomerang. Et ce sera injuste, sans doute, peut-être. Mais là, en termes de communication, il n'y a rien de pire que ça. J'aurais adoré prendre en main la destinée de la Côte d'Ivoire alors que je suis entraîneur de l'équipe de France féminine. Mais je ne sais pas où on voit ça. Moi qui l'ai envisagé, rien qu'envisagé, d'abord Hervé Renard, après la fédération, je trouve ça complètement fou, dingue. Et en termes de communication, catastrophique.
Ouais, moi ça me paraît limite encore plus dingue si je réfléchis à la position de la fédération que celle d'Hervé Renard, où lui, après tout.
Mais au final, elle a dit non.
Oui, elle a dit non, mais elle l'a envisagé. Ouais. Hervé Renard, après tout, ça reste un homme qui réfléchit aussi parfois de manière égoïste comme tout le monde et qui s'est dit, tiens, ça peut être une super opportunité pour moi et qui n'a pas vu plus loin que ça, je pense. La fédération, elle s'est quand même dit à un moment, tiens, ça ne va pas poser de problème en termes d'image, ou en tout cas, elle a envisagé l'idée, ouais. Ça ne posera pas de problème en termes d'image que le coach des féminines partent rejoindre la Côte d'Ivoire en plein milieu de la CAN, alors qu'il faut le rappeler quand même, parce qu'on a les JO en tête, il y a la Ligue des Nations féminines qui se déroulera fin février aussi. Ouais. Alors il a un staff, Hervé Renard, mais quand même. Donc c'est ça qui me paraît dingue. Et les questions qu'on se pose, c'est sur les répercussions sur son groupe. Aujourd'hui, comment est-ce que les joueuses vont digérer cette affaire qui aurait pu être réglée d'un claquement de doigts et qui aurait pu ne jamais sortir et qui finalement a pris de l'ampleur ? Est-ce qu'elles vont le digérer comme Elise Bousaglia, ancienne joueuse, qui a dit à quel point ça la dérangeait, à quel point ça dégradait encore l'image du football féminin ? Ou est-ce qu'elles vont le digérer comme l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Sonia Bonpastor, qui, elle, dans les colonnes de l'équipe, n'avait pas l'air plus choquée que ça ? Je sais pas, on va pas jouer les devins, je sais pas comment le groupe de l'équipe de France féminine va vivre ça. Et si je me projette aussi, j'imagine deux secondes qu'Hervé Renard reprenne les rênes de la Côte d'Ivoire. S'il y a victoire,
ah ouais.
c'est tourner des médias, mais comment c'est possible d'envisager ça ? C'est-à-dire que, et à l'inverse, s'il y a grosse catastrophe, un match pitoyable en 8e contre le Sénégal, il se fait défoncer dans la presse, dans quel état il revient pour prendre son groupe France ? Enfin, c'est toutes ces questions-là, je ne sais pas à quel moment la Fédé se les a posées, mais certainement un petit peu tard quand même.
Mais là, s'il gagne, il n'est plus sélectionneur de l'équipe de France féminine, en fait, parce que ça devient un héros national en Côte d'Ivoire, effectivement, ça dure des plombes, machin. Enfin, c'est inimaginable. Enfin, moi, je ne comprends même pas comment il peut l'imaginer. On se rappelle qu'Hervé Renard a quand même dit, quand il est arrivé à la tête de la sélection féminine, moi je viens pour faire aussi le VRP du foot féminin. Mais là, en fait, tu ne peux pas plus l'enfoncer, le foot féminin, qu'en envisageant d'aller entraîner une autre sélection en même temps. Voilà, tu veux faire le VRP. Alors après, ça dit quoi ? Ça dit que, enfin, déjà, ça dit les mots du foot féminin qui reste en retrait parce qu'on ne l'aurait pas imaginé pour ce que je disais tout à l'heure, pour un Didier Deschamps, pour je sais pas qui, hein, le sélectionneur de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne. Ça dit que le football féminin a encore beaucoup à travailler, que peut-être que l'équipe de France féminine est trop petite pour un sélectionneur comme Hervé Renard.
Ben, c'est ça.
Est-ce qu'il est vraiment venu pour faire progresser cette équipe de France féminine? Est-ce qu'il a vraiment le foot féminin dans le sang? Est-ce que... Voilà, moi, ça pose toutes ces questions-là. Après, ouais, on peut trouver ça sévère. On peut se dire, finalement, il aurait... Allez, lundi soir, c'était peut-être terminé. On rendait service à une nation avec laquelle on s'entend bien. Non. C'est aussi le football, c'est... et encore plus le football de sélection, c'est une histoire de symbole. La sélection, il n'y a pas plus symbolique. Hervé Renard, il est à la tête d'une sélection qui représente le monde aussi amateur. Toutes ces... Voilà, donc là, tu envoies un message qui est catastrophique. Même si tu n'y vas pas, au final, les déclarations, l'hésitation de la FFF, ça rend le truc vraiment bancal et catastrophique.
Ouais. Ouais. Pour juste rebondir sur ce que tu disais, qu'Hervé Renard est plus grand que la sélection féminine, c'est vraiment l'impression que ça donne, parce qu'on a l'impression que la Fédé a géré son cas comme, par exemple, le PSG aurait pu gérer un caprice de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi ou Neymar. Elle a géré son coach comme une star à qui on pourrait céder beaucoup plus que ce qu'on aurait cédé à ses prédécesseurs, bien évidemment. Donc c'est peut-être ça qui est un petit peu dérangeant. Et bon, Hervé Renard, en termes d'image, c'est très bien pour la Fédération française de football, en tout cas pour l'équipe de France féminine. Après ça, effectivement, il ne va pas falloir qu'il se rate aux Jeux Olympiques, notre ami Hervé Renard.
Allez, on va passer au dernier sujet de cette émission et on va parler du Paris Saint-Germain et de Bradley Barcola. Barcola qui va bien, qui est dans une super période, qui a bien démarré l'année, qui justifie aussi quasiment à lui seul, mais qui justifie le fait que Kylian Mbappé soit repositionné dans l'axe, qui fait qu'il y a un peu plus de place pour lui, qui fait des belles choses contrairement à Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Et donc, on va se poser cette question finalement, est-ce que c'est la meilleure recrue de l'été du Paris Saint-Germain? Et est-ce que, la deuxième question qui vient derrière, aujourd'hui c'est un titulaire indiscutable et indiscuté du PSG?
Pour la première question, en tout cas dans le secteur offensif, ça fait assez peu de doutes selon moi. Alors Ousmane Dembélé, c'est très correct ce qu'il fait. Alors il manque toujours ses stats, mais dans ce qu'on lui demande, voilà, il fait ce qu'on lui demande. Après, si on compare à Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, c'est sûr qu'il y a un gap. Et il y a un gap surtout dans le rapport entre le prix et les attentes et ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on attendait quand même beaucoup, beaucoup de Randal Kolo Muani.
Même s'il a été payé cher quand même.
Oui, il a été payé 45 millions. Bah, on va pas dire que c'était des pâquerettes non plus. Mais moins cher que quand même ses deux coéquipiers. Et on attendait de Barcola qu'il finisse de se construire et de grandir au Paris Saint-Germain. Parce qu'il faut rappeler qu'il a, je crois, 40 matchs de Ligue 1 avec l'OL dans les jambes avant de rejoindre le PSG. C'est rien. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui était en fin de construction, qui est toujours en train de finir de se construire, contrairement quand même à Kolo Muani et Ramos, qui sont à des stades un peu plus avancés de leur progression, en tout cas sur le papier. Donc, c'est là que ça surprend plutôt positivement. C'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il s'est imposé suite au repositionnement de Kylian Mbappé, parce que le plan de base, c'était quand même Mbappé couloir gauche et puis deux autres recrues en pointe et Dembélé à droite. Aujourd'hui, le plan a complètement changé. Et on a un Barcola qui interprète absolument parfaitement ce qu'attend Luis Enrique de son homme dans le couloir gauche. C'est-à-dire une énorme activité, une capacité dans les 1 contre 1 à être très très fort, à éliminer l'adversaire, beaucoup d'efforts. Et il a même une belle qualité de finition. Donc il coche beaucoup de cases, Barcola. Et c'est vrai que voilà, ce repositionnement de Mbappé lui a fait du bien. Et ça fait de lui une recrue à très forte valeur ajoutée à court terme, ce qui n'était pas forcément attendu.
Alors déjà, il faut se souvenir qu'il y a un an, Barcola, c'était rien. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut se dire qu'effectivement, c'est une recrue intéressante, parce que si tu prends le ratio, ce qu'on espérait de lui et ce qu'il prouve sur le terrain, effectivement, c'est au-delà de Dembélé, c'est au-delà de Ramos, c'est au-delà de Kolo Muani. Après, moi, je mets quand même Lucas Hernandez devant parce que qu'il a apporté une stabilité. Voilà. Mais en termes offensifs, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que ça dit aussi? Qu'est-ce que ça raconte, ça? Que ce soit Bradley Barcola, la meilleure recrue offensive du PSG. Bah, ça raconte quand même le naufrage du PSG au mercato dernier. C'est-à-dire que si tu estimes que Barcola est le mec aujourd'hui qui est important, qui est incontournable à gauche, alors qu'il a quand même encore, tu le disais, c'est un joueur en construction. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, un joueur en construction peut être titulaire comme ça et se présenter comme la meilleure recrue offensive au mois de janvier? Non. Il faut se souvenir de son match face à Newcastle où il... Mais encore une fois, je n'ai pas envie de démonter Barcola, mais il faut quand même se souvenir de ses prestations en Ligue des Champions qui sont quand même inabouties, inachevées. C'est un joueur encore qui a beaucoup de déchets devant le but. Il apporte énormément, il crée de l'insécurité, il crée du déséquilibre, il crée du désordre. En plus, je trouve qu'il défend bien.
Il défend très bien.
Voilà, il y a beaucoup de points positifs. Mais si vous voulez, au Paris Saint-Germain, ça peut pas suffire. C'est pas Barcola qui va te faire franchir un palier. Quand tu avais Messi, quand tu avais Neymar, avec tous les défauts qu'ils avaient, mais enfin, quand tu passes d'eux à Barcola, tu peux pas gonfler tes ambitions. Et pour moi, ce qu'on raconte là, c'est la raison principale pour laquelle le PSG aujourd'hui a vu ses ambitions décliner fortement en Ligue des Champions et pourquoi ils pourront pas la gagner cette année. Parce que c'est pas avec Barcola que tu gagnes des Ligues des Champions. Même si c'est énorme, même si franchement il est chouette à voir, mais ça peut pas suffire. Alors ça raconte à la fois le crash de Ramos et de Kolo Muani et aussi le déclin des ambitions parisiennes en Europe.
Alors, soit le déclin des ambitions, soit le fait que Paris a mis un peu d'eau dans son vin à ce sujet-là et qu'ils ont un peu switché en termes de projet. C'est-à-dire que là, on n'a plus un PSG qui est obnubilé par la Ligue des Champions.
Oui,
à
mais
très
regarde
court
combien
terme
ils ont dépensé l'an dernier. Quand tu dépenses autant, tu es obligé d'avoir des ambitions.
Je suis d'accord que
les
montants dépensés viennent toujours.
Tu as Mbappé. Enfin, quand tu as Mbappé, automatiquement, t'es un prétendant avec des champions.
Oui, mais en recrutant Luis Enrique, tu recrutes un coach qui est là a priori pour construire sur la durée.
Et qu'il a déjà gagné aussi.
Il l'a déjà gagné et ça se retrouve dans les pistes. Voilà, les joueurs recrutés au mercato de janvier, c'est des joueurs de 20 ans. Le joueur ciblé pour le prochain mercato d'été en défense centrale, c'est Lenny Oro, pareil, très jeune défenseur central de Lille. Donc on est dans ce projet-là avec Luis Enrique, dans des joueurs que l'entraîneur espagnol, il va pouvoir façonner à sa manière, un peu à la manière d'un Pep Guardiola à Manchester City, on en parlait tout à l'heure. Et Barcola, pour le coup, il rentre parfaitement là-dedans parce qu'il en fait ce qu'il veut. Il est en train de le façonner à sa façon. Il rentre dans son moule et il a besoin d'un joueur de devoir sur au moins un des deux couloirs qui puisse compenser aussi le déséquilibre qu'il peut y avoir du côté du PSG de temps en temps. Et ça, tu pourrais pas le demander à une star confirmée dans ton couloir. Donc c'est ça l'avantage de Barcola et ça dit pas que du... Ce que je veux dire, c'est que ça dit pas que du mauvais sur le projet du PSG.
Non. Et surtout, encore une fois, je veux pas démolir Barcola qui, pour lui fait ce qu'on lui demande et plutôt bien. Après, on a vu quand même que il y avait... Enfin, faut pas oublier ce qui s'est passé en Ligue des Champions et qu'il y avait quand même du déchet devant le but.
Ah oui, bien sûr.
Ouais, beaucoup de déchets devant le but.
Majeur.
Et je pense que, alors, si je me projette encore plus loin, on annonce quand même de plus en plus un départ de Mbappé du côté du Real Madrid. L'année prochaine, un Barcola qui donne beaucoup de ballons, qui crée du déséquilibre, mais qui derrière ? Ouais. Qui derrière pour mettre des buts ? Le principal problème du PSG aujourd'hui, et c'est ce que j'ai ressassé continuellement après chaque match de Ligue des Champions, c'est que tu n'as qu'un mec qui est capable aujourd'hui de planter à très haute intensité et il n'y a pas de club qui existe sur la scène européenne. En Ligue 1, tu peux exister, il n'y a pas de problème, mais sur la scène européenne, sans un mec qui est capable d'en mettre une palanquée. C'est pas Barcola, ce sera, je pense, jamais un joueur à 35 buts par saison. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment un déclic absolu. Ou voilà. Moi, c'est ça qui me pose problème. Mais après, j'ai absolument rien à lui reprocher. Et je lui dis même bravo pour ce qu'il est en train de faire à Paris.
Ouais, du côté du PSG, il y a quand même tout intérêt à ce que Ramos, Kolo Muani ou Asensio, un des trois, là, se révèle et puisse aussi permettre Barcola de ne pas être titulaire non plus à tous les matchs, parce que je ne suis pas sûr que ce soit super bénéfique pour sa progression.
Je
ne
suis pas sûr que ce soit le plan initial.
Que ce soit
le
plan, effectivement.
Et le fait que ça devienne ce plan-là, voilà, ça, pour moi, ça dit autant de ses qualités à lui que du manque d'impact supposé que devaient avoir les autres, en tout cas. Mais on parlait en début d'émission de Salah, qui pourrait partir à un an de son contrat. Je ne suis pas loin de penser que c'est le mec qu'il faut à Paris l'année prochaine. Voilà, c'est tout. C'était ma petite parenthèse.
Dans le genre créatif, finition en plus, oui, je pense que ce ne serait pas une vilaine idée pour le PSG.
Pas une vilaine idée. Comme le fait de titulariser Arthur Meller au FC Stream Team, ce ne serait pas une vilaine idée.
Je ne suis pas contre, mais il faut en parler.
Ce qu'on voit que Maxime, c'est quoi ? On est entre nous, personne n'écoute. T'es d'accord avec moi, c'est déclinant, Maxime.
Non, mais tu vas pas me piéger comme ça. Hey, je suis, c'est quoi, mon cinquième jour de CDD et tu veux déjà me faire couler ?
Non, mais
c'est un peu tôt.
Maxime, c'est déclinant. Enfin, c'est. Il y a Adrien qui opine du chef, qui est là à toutes les stream teams. Il est sur ses marottes. Après, il est attachant. Et c'est ça qui est difficile. Mais à un moment. Tu vois, faut couper le cordon et je pense que tu as prouvé dans ce FC Stream Team que Maxime Dupuy fait son temps, Arthur.
Bon, en tout cas, il faut couper l'émission aussi à un moment. On va peut-être conclure là-dessus.
Bon, on est tous d'accord avec ça. On remercie quand même Adrien à la prod. comme on dit, Quentin Hichard au visu, visuel, et Arthur Merle pour sa masterclass.
Ouais, j'ai fait que t'accompagner.
Non, mais arrête. Arrête, là, j'ai...
Tu m'as pris par la main et je t'ai suivi.
Bah ouais, mais... Là, c'est triste parce que je vois le crépuscule de Maxime. Et je trouve ça triste, en fait. Là, la prise de pouvoir, elle est trop évidente. Elle est trop évidente. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est la vie en même temps. C'est comme dans le football. Il y en a qui prennent le pouvoir et qui demandent rien aux autres.
Ouais, mais encore une fois, dans le football, à 29 ans, les mecs, généralement, ils sont plus installés que moi.
C'est pas faux.
Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver l'émission. On le rappelle.
Il y a même les petites phrases et tout. Oh là là, mais...
En tapotant sur vos cellulaires.
Oh, voilà,
Eurosport sur vos cellulaires. Football Club.
Voilà, exactement.
Voilà, vous pouvez retrouver le FC Stream Team, évidemment. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure très bien, les meilleurs moments de l'émission en vidéo sur eurosport.fr.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Tout à fait.
Je pense, malheureusement, avec Maxime
avec
Dufy,
mais
peut-être,
voilà,
peut-être qu'il va écouter ça et qu'il va prendre la décision lui-même, comme Klopp, à un moment, il va dire.
Il va y avoir un
out
communiqué.
Of energy, tu vois.
Communiquer
j'ai plus
sur l'usure.
J'ai plus d'énergie. Voilà. À un moment, c'est comme Lloris et Varane, tu vois, à la fin de la Coupe du Monde. Varane, il voit que derrière, il y a Konaté. Terminus. Bon, bah non, on se retrouve la semaine prochaine avec non pas Raphaël Varane, mais Maxime Dupuis, je pense. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.